Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC pour les meilleurs moments de Rotten sans flamme. C'est votre émission de foot préférée tous les jours sur RMC de 18h à 20h avec Jérôme Rotten et un casting d'immense qualité que vous allez retrouver dès lundi prochain. Donc Rotten sans flamme se poursuit en cette année de Coupe du Monde. On en est ravis, RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde 2026 et on va se régaler tous ensemble jusqu'à ce bon moment. On en profite donc de cette semaine pour revivre les moments forts de cette première partie de saison et pas mal de pépites sélectionnées aujourd'hui, à commencer par le procès à 18h30, le procès de tous ceux qui avaient beaucoup trop d'attentes autour du retour de Paul Pogba, son arrivée à l'AS Monaco après une longue absence liée à une blessure et une suspension. Paul Pogba a retrouvé les terrains, ça a fait débat tout au long de cette première partie de saison dans Rotten sans flamme sur RMC. Dans le Allo Jérôme, là aussi, autre thème polémique, les pubs pendant les matchs de la Coupe du Monde, les mi-temps interrompus pour 3 minutes de pause. Là aussi, la Dream Team était complètement folle, à commencer par Jean-Michel Larquet ou encore Benoît Costil. Mais tout de suite, on démarre avec un débat éternel. Est-ce que l'arbitrage vidéo a fait du mal au foot français? Nous étions ce jour-là avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Écoutez.
Gros tacle en retard de Luis Diaz.
Monsieur Mariani vient d'être alerté. Ouais. Il va aller voir la vidéo.
Allez, il fait signe
et carton rouge. Voilà, carton rouge pour Luis Diaz.
C'est où, mais après ça reste pas ça.
Greenwood, il va centrer. C'est contré par les Italiens. Il siffle pas. Il siffle pas encore, monsieur Sanchez. Il attend. Il faut pas se faire transpercer parce que s'il n'y a pas pénalty. Attention à la frappe de Samardzic et le but.
Oh non.
Et le but
oh
de Samardzic. La frappe de 30 mètres.
La VAR doit appeler monsieur Sanchez, lui dire d'aller voir la vidéo. But validé pour l'Atalanta.
Quel scandale.
C'est où, mais après ça reste pas ça.
Très bien dans la surface de réparation. Et le deuxième but parisien. Alors là, c'est difficilement compréhensible. Ouais. Ça va évidemment être checké à la VAR.
Tacle tous les jours.
Pour l'instant, le but est toujours validé. On a vu cette semaine un Marseille-Atalanta. On n'a pas toujours compris l'arbitrage.
C'est un scandale pour le foot. Je suis assez inquiète.
Ouais. Alors inquiète, toute la semaine dans Rotten sans flamme.
La mère de Dugas, elle est inquiète. Dugas.
Exactement. Dugas
c'est
est inquiète.
Pas Frappard qui est inquiète.
On lance les débats éternels dans Rotten sans flamme à 19h. Les sujets qui vous font tous réagir. Vous réservez vos places au 3216 sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. On démarre avec l'arbitrage. 8e saison que l'arbitrage vidéo est utilisé en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019. Pour en débattre avec nous, un ex-arbitre international dans ce studio, c'est Bruno Derrien qui est là. Bonsoir.
Bonsoir. Bruno. Bonsoir.
Merci Bruno d'être là.
Avec plaisir.
On a hâte de vous entendre. Ouais. Et avant de lancer les débats.
Même si la solution, c'est toi. Je me disais, c'est moi qui dois intervenir dans le camion VAR.
Je n'ai pas cette prétention. Parce qu'à mon époque aussi, j'ai sifflé un peu de travers.
Mais ça arrive.
T'as pas fait d'erreur.
Non, peut-être que ça.
C'est le Marseillais qui parle. Il se souvient d'un Lens-Marseille.
Ah, oulala.
Oui.
Arnaud Valadon est avec nous également. Salut Arnaud.
Salut tout le monde.
Alors Arnaud, tu vas nous rappeler les règles d'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage et tu vas nous dresser le bilan global des interventions depuis la mise en place, s'il te plaît.
On rappelle le principe, un arbitre assistant vidéo qui peut uniquement aider l'arbitre central en cas d'erreur manifeste ou d'un incident grave manqué. Quatre situations, but marqué ou pas, pénalty ou pas, carton rouge direct uniquement, identité erronée lors d'une sanction administrative d'un carton. Alors souvent ce qui fait débat, ce sont les modalités d'utilisation et les lois du jeu. Précise, seul l'arbitre central peut initier une analyse vidéo. L'arbitre assistant vidéo peut uniquement recommander une analyse à l'arbitre. Alors, quelle efficacité pour le VAR? En Ligue 1, entre 70 et 4% des erreurs initiales sont désormais corrigées, c'est-à-dire que sur 10 situations mal jugées à la base, entre 2 et 3 actions restent erronées. La Première Ligue, de son côté, met en avant que désormais 96% des décisions prises sont désormais bonnes, grâce à la vidéo, contre 80% avant. Elle dit aussi que la majorité des supporters sont en faveur du VAR. Et petit élément, en 2023-2024, en Ligue 1, le VAR a été utilisé 105 fois au total sur la saison, contre 77 fois en Angleterre. Temps d'analyse moyen, 88 secondes. Alors les évolutions, on a vu, et ça c'est plus de la com, l'annonce publique de l'arbitre dans le stade. Mais surtout, à la Coupe du Monde du vin, il y a quelques semaines, l'introduction du carton vert, il permet à un coach de solliciter l'appel à la vidéo pour les quatre situations, but, pénalty, rouge. L'arbitre satellite vient voir les images que lui fournit un opérateur. Mais attention, cette mesure, prévient la FIFA, n'est valable quand il n'y a pas de camion VAR ou d'arbitre assistant vidéo, comme on le connaît en Ligue 1 ou Ligue des Champions. Alors. C'est donc une mesure de substitution, une sorte de VAR low cost.
Merci Arnaud, c'est le débat éternel du soir. Est-ce que l'arbitrage vidéo a fait du mal au foot? 32-16 pour participer avec nous. Avant d'entendre nos membres de la Dream Team s'écharper, l'avis de l'arbitre, monsieur de rien. Est-ce que la vidéo a fait du mal au foot alors?
Bon, je crois qu'on peut dire que le VAR reste encore au centre des polémiques dans le football. Et on peut tirer, je crois, un bilan contrasté, 8 ans après sa mise en œuvre. Je vais prendre un exemple. Moi, j'étais à Brest fin octobre. J'ai assisté au match Brest-Paris Saint-Germain. Il y a eu un Parisien qui a fait une main. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Il a un
voilà, tout à fait. Il a fallu 7 minutes et 18 secondes.
Ah oui.
Pour sanctionner cette
main. On est loin des 88 secondes de Arnaud.
7 minutes et 18 secondes dans le public qui a commencé un peu à...
C'est rare, autant de temps pour une décision.
Bon, quand même. Alors, je crois qu'il y a eu un problème de liaison, peut-être entre la VAR et l'arbitre. Il a sifflé corner. Puis après, il est revenu, il a traversé le terrain, il est allé voir la vidéo. Puis au final, au bout de 7 minutes, il a sifflé le penalty. Et puis le Brestois Del Castillo, qui a sans doute été un peu...
Perturbé,
ben, il a glissé au moment de tirer le pénalty, derrière, coup franc direct parce qu'il a touché deux fois
ballon. Deux fois ballon, ouais.
Voilà. Donc, c'est ça. Dans l'application de la VAR, il y a quand même des dysfonctionnements, quoi.
Mais est-ce que fondamentalement, vous êtes, opposant à la VAR?
Non, j'étais pas. Répondre à la question, Bruno, s'il vous plaît. Merci.
Non, mais je vais répondre à la question.
Ah, en plus,
c'est un politique.
Non, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, SOS arbitre, SOS vidéo. J'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait aider les arbitres à partir du moment où l'erreur d'arbitrage n'était plus acceptée, que c'était tout de suite le procès des arbitres qui était fait par tous les acteurs du football, les dirigeants, les journalistes, les entraîneurs, tout le monde. Et que donc, comme on est dans un monde imparfait et on demande la perfection. Ben non, dans l'arbitrage, il n'y a pas de perfection. Malheureusement, ça reste une activité humaine.
Oui,
et tant mieux d'ailleurs.
Interprétation.
Bon. Alors maintenant, à l'application, j'ai un avis plus mesuré et réservé. Parce que, bon, je pense que chacun est d'accord aussi sur le plateau, quand même, on assiste quand même des fois à des décisions qui sont un peu particulières, bizarres, comme non?
Ah, bah, surtout là, et dernièrement. Et moi, c'est ce qui.
Vas-y, Jérôme. Ouais.
Moi, je revois un peu ma copie. Moi, j'ai toujours été un grand défenseur de la VAR.
Toujours pas la réponse. Hein.
Mais moi,
ça va venir.
Je vais te dire. Moi, je suis pour la VAR. Mais
est-ce qu'elle a fait du mal au foot?
Elle a fait du mal et on le voit et Bruno le disait, mais surtout déjà en Ligue 1. Je parle pas en Ligue des Champions parce que l'arbitrage est différent et on le dit toujours. Et il faut être très clair, même s'il y a eu aussi des incohérences avec la VAR et tout ça. Mais en Ligue 1, moi je trouve que plus ça va, moins ça va en fait. Plus ça va, on utilise d'autant plus la VAR et des fois on n'y comprend rien. On n'y comprend rien parce que à la fois, des fois, il y a des images très claires et l'arbitre n'est pas appelé.
C'est l'outil ou l'utilisation de l'outil?
Non, moi, je pense que l'outil, c'est pour ça que je suis toujours un défenseur de la VAR. Je trouve que cet outil-là, il faut s'en servir beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Mais il faut s'en servir parce que nous, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on était sur le terrain il y a quelques années et il y a
vous
eu.
Vous l'avez pas connu vous en tant que joueur.
Non, il y a eu des incohérences. Non, moi j'ai arrêté juste avant. Mais il y a eu des incohérences et par moments on s'est fait avoir. Je resterai sur ce terme-là. On s'est fait avoir parce qu'il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage et ces grosses erreurs d'arbitrage aujourd'hui avec cet outil-là, elles n'auraient pas eu lieu et ce match, au lieu de le perdre ou de faire match nul, eh ben on l'aurait gagné, on aurait fait un match nul, tu vois, si on devait
c'est
le perdre.
L'histoire du
et
foot.
Que oui, mais c'est l'histoire du foot. Sauf que moi, je comprends ta réflexion, Benoît, et je l'ai eu cette réflexion-là plein de fois avec à l'époque quand je faisais l'after avec Daniel Riolo, et je lui disais, alors il le comprenait pas, et toi aussi, je sais pas si tu le comprends, mais vous êtes bien placé, vous êtes assis.
Non, mais toi, t'as une frustration
place,
de joueur,
mais,
ok.
Mais tu sais que des fois, tu perds des titres. Pour un point ou pour deux points,
oui, bien sûr.
Ou pour des fois un but. Sauf que des fois, tu te dis quand tu fais le reflet. Alors attention, moi, je te dis pas que j'ai un palmarès énorme et tout ça, mais j'en ai un petit. Voilà, mais j'aurais pu l'avoir encore mieux s'il n'y avait pas eu ces deux trois décisions contre nous à l'époque.
Mais ça fait partie du jeu. En fait.
Oui, mais vous, c'est d'accord, ça fait partie du jeu.
C'est difficile à accepter,
mais
je comprends. Mais
t'imagines
ça fait partie
que
du jeu.
Nous, c'est notre profession. C'est, oui, on vit pour sûr. Ça. Tu vis, t'es un compétiteur, tu vis pour gagner des titres. Et cet outil-là, je pense qu'elle gère cette frustration-là que nous, on pouvait avoir à l'époque et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Ouais, je pense, très honnêtement.
Appelle les Marseillais pour savoir s'ils ne sont pas frustrés sur le dernier match contre l'Atalanta.
Oui, mais Eric, et je te donne la parole, mais sur l'ensemble d'une saison, je pense que cet outil-là a réglé ces problèmes-là que je viens de te dire sur de frustration pour perdre un titre. Voilà, ou un trophée majeur. Après, le reste, là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te laisse parler, parce que il y a aussi beaucoup d'incohérences. Et dernièrement, avec l'Olympique de Marseille, et c'était en Ligue des Champions.
Mais non, mais alors, écoute, on avait fait le débat pour contre la VAR avant qu'elle arrive. Moi, j'ai toujours été contre, et je suis conscient aujourd'hui qu'on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est une réalité. On ne reviendra pas en arrière. Sauf que ce que je vois depuis que la VAR existe, me conforte sur ce que je pensais. Ceux qui étaient contre, souvent, bon, ils parlaient de l'émotion qui va peut-être être autre que ce que nous on vivait quand il y avait un but. Maintenant, il y a toujours un peu cette retenue, même du public, parce que quand il y a un doute, tu as plus la joie spontanée. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Quand il y avait la présentation du papier, là, qu'on nous donne les stats de rectification de la VAR, c'est bidon, ça. C'est bidon. Je vous explique. Je vous explique pourquoi. Parce que vu qu'il y a la VAR maintenant, il y a des arbitres qui laissent jouer des actions, notamment sur des hors-jeux et tout. Peut-être qu'à l'époque, ils auraient pris la bonne décision de siffler de suite. Là, ils laissent aller l'action. Et il se trouve que derrière, la VAR, elle rectifie. On dit, ça a rectifié. Mais ça n'a pas rectifié une erreur de l'arbitre, puisque l'arbitre se sert de la VAR et laisse jouer
Sur certaines actions dans la surface,
maintenant, tu as la couverture de la VAR. Donc, du coup, tu laisses un peu plus jouer, et tant mieux d'ailleurs, puisque tu te sers d'un outil. C'est pas le problème. C'est que je te dis, Benoît, pour l'arbitre que cette histoire les stacks, la VAR a rectifié tant de trucs. Mais non, tu le sais pas, puisque s'il n'y avait pas eu la VAR, l'arbitre aurait peut-être pris la bonne décision.
C'est que la bonne décision soit prise, Eric, que ce soit avant ou après, ou
avant. Mais tu le fais exprès ou tu es con? Mais Benoît, essaie de comprendre ce que je dis. Pour argument, pour être pour la VAR, tu dis ça a rectifié. Je sais pas combien de décisions, je sais pas comment il nous a présenté ça. Je te dis,
94%,
c'est bidon, parce que il y a des actions qui auraient sûrement été bien jugées sans la VAR, qu'on laisse jouer parce que mais je dis pas que c'est pas bien. Je dis que l'argument.
En fait, je comprends pas ce qui te gêne.
Donc, pour défendre la VAR, on dit que ça rectifie des erreurs qui pour moi, la stat est bidon. Je vous dis que l'erreur n'était pas obligatoirement faite, puisque l'arbitre laisse jouer. Dernier argument, il y a quand même, on nous a expliqué, alors la dernière fois quand on a fait ce débat, j'ai un peu exagéré, on nous a jamais dit qu'il y aurait plus jamais d'erreur d'arbitrage. Par contre, on nous a dit qu'il y aurait beaucoup moins de polémiques, voire plus de polémiques. Ouais. Ça, on nous l'a dit, Et donc, moi, si vous voulez, vous reprenez les podcasts du lundi, du mardi, du mercredi, de Rotten sans flamme. Et c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet numéro un qui revient régulièrement?
Ah non, on a progressé.
Tu déconnes ou quoi? Il y a toujours des problèmes.
Eric, ça a géré certaines polémiques quand même. Ça a éteint certaines polémiques. Après, peut-être que ça en recrée quelques-unes, mais
ça en recrée d'autres.
C'est bien inférieur à avant.
Si tu gommes. Ah, mais non. Non, parce que avant, justement, et après, je laisse du gars, parce que je pourrais me faire pendant des heures. Avant, justement, il y avait cette notion de frustration assumée. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu, j'ai raté une première finale de Coupe d'Europe des clubs champions sur une main. Donc pire que ça dans la vie, citez-moi si vous avez connu pire que ça dans la vie. Et je pourrais dire aujourd'hui, regardez la main de Vata, tout le monde l'aurait vu. Oui, mais ça fait partie de l'histoire du football encore aujourd'hui. Et peut-être que
moi,
si
elle est pas flagrante,
on l'avait pas
hein,
perdu,
celle-là.
Et peut-être que si on l'avait pas perdu sur la main, on l'aurait perdu sur une autre action ce match-là. Mm-hmm. C'est l'histoire du football, l'histoire.
Mais elle était vraiment flagrante la main.
Mais oui, Vata est venu témoigner sur.
Vata, il a dit que c'était la cuisse.
Il a dit que non. Donc moi, pour moi, la VAR, elle règle pas les polémiques. C'est un sport d'interprétation, donc il y aura toujours des erreurs. Ça, on l'a pas compris. Et ensuite, ça génère des frustrations. Et il y a toujours autant de discussions. Donc voilà. Moi, tu veux que je te dise pour finir, je préfère avoir connu le football que j'ai connu que le football d'aujourd'hui. Du coup, avec cette histoire de VAR où les mecs ne comprennent plus. Et c'est pour ça que je disais, demande aux joueurs de l'OM s'ils sont contents de la VAR ou la frustration est encore pire quand tu passes, quand tu sais que l'arbitre a fait une erreur qu'il pouvait pas voir, la main de bataille pouvait pas la voir. Ben, j'ai les nerfs, mais je l'ai toujours défendu, ce pauvre arbitre un peu cher qui a été en plus
menacé, etc. Tout.
Marcel
Vandenberghe. Alors qu'aujourd'hui, tu es encore plus frustré parce que tu te dis, mais c'est pas possible qu'il ait pas vu, il y a la VAR. Et tu es encore plus frustré, je trouve. Bon. Voilà. Donc, bon, ben, on reviendra pas en arrière. Mais ce football-là, sur le terrain, je suis pas sûr ça me ferait,
Et
à la limite, profitons du hors-jeu parce que, alors, il y a la petite puce maintenant dans le ballon. Ça, à la limite, mais regardez la connerie de ça. Vous pensez vraiment que le hors-jeu maintenant, même s'il est peut-être plus sûr, voire même très sûr, voire même il n'y a pratiquement plus d'erreurs, vous pensez que c'est toujours dans l'esprit du jeu ?
Contre toutes les innovations.
Mais c'est la règle.
Non, mais.
Enfin bon, bref.
Non, pensez, la règle. Et ben, demande au mec de l'Atalanta si le premier but.
Non, mais même Bruno,
si celui-là. Si celui-là.
Mais c'est là où tu fais erreur.
C'est
là où tu fais erreur.
C'est pas dans l'esprit du jeu. C'est pas dans l'esprit du jeu.
Oui, mais ça, l'esprit du jeu. Jeu pour l'équipe, règle, l'équipe qui marque,
c'est pour ça que je dis à la limite leur jeu, il y a une puce, il y a une vidéo,
il y a une amélioration. Bon,
il y a pas du tout cette avis. Ok, mais toutes les interprétations, il y a des problèmes.
Là où te suis pas, Eric, c'est que même si ça ne corrige pas toutes les erreurs, même si les stats tu les trouves faussées parce que parfois un arbitre n'ose pas lever parce qu'il se dit que ça sera corrigé par le VAR, à partir du moment où ça corrige des erreurs, pourquoi, comment tu peux être contre le VAR?
Je comprends pas.
À partir du moment où des erreurs sont corrigées, comment tu peux être contre un truc pareil?
Parce que là, t'es en train de m'expliquer qu'il y a encore d'autres erreurs, si tu veux, qui s'accumulent avec l'utilisation de la VAR, alors qu'il n'y a pas d'autres erreurs.
Mais un match, c'est une suite de décisions pour l'arbitre, je parle pour l'arbitre, de décisions. Il y a plusieurs décisions dans un match un peu controversées. Je reviens toujours à ce match de l'Atalanta. Il y a ce hors-jeu pour les Italiens, qui pour moi c'est un scandale de signaler hors-jeu là-dessus, alors que le ballon il est joué sur l'attaquant, qu'il est remis en jeu, et que derrière on va le juger hors-jeu. Donc il y a l'histoire de la main. Voilà. Donc
c'est
mais la VAR, l'arbitre fait partie de la VAR, je suis désolé. Si on n'arrive pas à interpréter la VAR, ça veut dire que le football, qui est un sport d'interprétation, est compliqué. Donc je finis mon raisonnement. Sur un match, il y a plusieurs actions délicates pour un arbitre à juger. Ok, 2, 3, 4, 5, il y en a pas 10 000 dans un match. Il y a beaucoup d'actions qui sont jugées, voire mal jugées, qui ne sont pas si graves que ça, qui n'influencent pas le résultat. Mais il y en a 2 ou 3. Toi, tu me dis 600 gommes une, ça suffit. Ah oui, 600
gommes. J'ai pas dit ça suffit. J'ai dit que c'est déjà une amélioration.
C'est mieux que zéro.
Alors je te dis pourquoi c'est pas mieux que zéro, puisque
c'est juste des maths.
Parce
qu'il y a une équipe qui est flouée par rapport. Alors là, tu remets en cause la partialité de l'arbitre, et là, c'est un autre problème.
Je ne mets même pas la partialité de l'arbitre. Je te dis juste que moi, je reste persuadé que l'arbitre de match de l'Atalanta, il ne veut pas enfler l'OM.
Il a pris une décision contre.
Ça reste pas, ça glisse. Je suis sûr que quand elle dit ça, c'est pas pour aller contre Lyon. Pourtant, c'est une horreur de pas sortir le mec sur cette action-là. Et donc, moi, vous allez aller expliquer aux Lyonnais, par exemple, sur cette action-là, que la VAR a gommé une action peut-être qui aurait pu être pour eux, mais ça a pas gommé celle qui était contre eux. Et donc, vous êtes content. Ça a pas gommé.
Je veux dire, s'il y avait pas la VAR,
attends, Jérôme. Jérôme, excuse-moi, juste un truc. Eric, une erreur pour chaque équipe. Une erreur. Il y a l'arbitre qui rectifie une erreur sur chaque équipe. Ça oui, fait non, pas zéro pas erreur.
Ben oui.
Une erreur plus une erreur, ça fait deux erreurs. Arrête de dire n'importe quoi sous prétexte que l'arbitre
pas n'importe quoi,
a choisi, a dit. Eh bien, écoute, mais c'est la même chose. Non, tu es en train de nous expliquer que comme il s'est trop sur une fois, mais il a pas accordé l'erreur à l'OM, mais il a accordé à l'Atalanta. Donc c'est l'Atalanta qui est favorisé et l'autre qui est pénalisé. Une erreur plus une erreur, ça fait deux erreurs. C'est pas, ça fait pas zéro. Donc au lieu d'avoir deux erreurs,
je dis pas que ça fait zéro. J'essaie de vous démontrer.
Mais c'est ce que tu dis. Tu dis un qui a enflé.
Mais non. Alors, ou soit je m'explique mal, soit vous comprenez mal.
Non.
Je vous explique que votre raisonnement de dire que une erreur, c'est déjà ça dans un match de rectifier. Je vous dis, si c'est qu'une erreur qui est rectifiée dans un match, et peut-être deux, peut-être trois, eh ben, ça fait pas que le match, il devient, il est juste. Voilà. Si l'erreur qui est rectifiée, non, elle est pas pour toi, eh ben, malheureusement, et que pour toi, par contre, c'est une vraie erreur qui est pas rectifiée, et donc, tu vas aller expliquer à cette équipe-là que, ben, il y a une erreur de rectifier, c'est bien, déjà.
C'est pour ça qu'il y a une part d'interprétation toujours qui existe. Attendez, on n'a jamais dit que ça allait régler tous les problèmes et toutes les erreurs.
Bruno, les gars, Bruno va mettre tout le monde d'accord.
Je vais essayer d'arbitrer ce duel. Alors, je suis assez d'accord avec Eric sur un certain point. Notamment, je pense que la VAR déresponsabilise aujourd'hui les arbitres. On parlait tout à l'heure des attaquants qui sont hors jeu, qui partent hors jeu. Ouais. Hors jeu de 2 ou 3 mètres. L'assistant lève pas son drapeau.
Ouais.
Il attend la fin de l'action. Imagine un seul instant que l'attaquant vient percuter.
Quel est le problème?
Vient percuter le défenseur et se blesse. Alors qu'il y avait un hors jeu évident, il aurait pu lever son drapeau. Comptez, je serais assez curieux de connaître les stats des pénalties sifflées en live par un arbitre en direct. Aujourd'hui, ils ne sifflent plus pénalties. Ils attendent.
Ben oui.
Ils attendent pratiquement tous d'être sollicités par la VAR pour siffler un pénalty.
Mais quel est le problème?
Mais moi, ça me gêne.
Et toi,
moi ça me gêne.
Je préfère un mec qui attend et qui fasse pas de conneries plutôt qu'un mec qui se précipite.
Mais s'il fait une connerie, c'est pas grave.
Mais il faut les conneries quand ils attendent.
Mais Christophe, s'il fait une connerie, c'est pas grave. Elle sera modifiée par la VAR. S'il fait une connerie.
Oui, mais à l'inverse, moi, je suis pas d'accord avec ta réflexion, Bruno, parce que dernièrement.
Alors, il n'y a plus besoin d'arbitre la prochaine fois. On va y retirer.
Mais dernièrement,
J'espère qu'il n'y en aura plus, moi.
On en a besoin dans la vie d'arbitre. Il y a des règles, tu dois respecter, mon cher Christophe.
Dernièrement, il y a un Metz-Nice. Ce qui m'a choqué, c'est que, à l'inverse de ce que tu dis, c'est que Stéphanie Frappard siffle penalty pour Nice. Sur une main d'un Messin, soi-disant. Et le ballon, il passe à 50 centimètres de sa main. Donc, il touche jamais sa main. Heureusement qu'il y a eu la VAR pour annuler le pénalty. Sinon, t'imagines que là, il perd.
C'est ce que je viens de te dire.
Mais non, tu disais que des fois, ils se retiennent de siffler le pénalty. Mais
pratiquement tout le temps, on regarde le nombre de pénalty qui sont sifflés en live. Là, il n'y en a pratiquement plus.
Christian qui nous dit la VAR a été créée pour aider les arbitres et non pour décider à leur place. Donc ça, c'est un des vrais problèmes de la VAR. Et sinon, il y a les thèmes qui reviennent souvent, notamment Simon qui dit les deux problèmes de la VAR, l'illusion de la perfection, on a fait croire aux acteurs qu'il n'y aurait plus d'erreurs, et la déresponsabilisation des arbitres.
On n'a pas fait croire aux acteurs qu'il n'y aurait plus d'erreurs, mais
c'est pas que les acteurs, dis-moi, le football, c'est les supporters aussi.
Mais les supporters, pareil.
Les supporters y ont cru. Mais bien sûr que oui.
Mais quelle personne a cru qu'avec avec une vidéo, ça allait rectifier tous les problèmes.
Oui.
Mais non, mais c'est pour ça que je veux lancer Bruno là-dessus, moi, sur l'utilisation de la VAR, parce que c'est vrai que là, on se dit que par moment, le règlement est pas forcément adapté ou respecté par ceux qui sont au VAR Center et qui doivent donc communiquer avec l'arbitre du centre, et que en plus de ça, il y a une façon d'arbitrer au VAR Center par rapport à l'arbitre de champ. Tu vois des grands arbitres internationaux aujourd'hui. En France, on a la chance d'en avoir des bons, des très bons. Clément Turpin, j'ai pas l'impression que Clément Turpin à chaque fois soit embêté entre guillemets par la VAR. Est-ce que toi, c'est un ressenti que t'as
Tu as raison, il y a une reconnaissance de l'arbitrage français sur la scène internationale.
Oui.
Le Texier a dirigé la dernière finale de l'Euro. Elle m'a été sacré meilleur arbitre du monde l'année dernière. Donc, manifestement, la qualité de l'arbitrage français est reconnue à l'extérieur.
On est là,
plus que chez nous. Bon. Tu disais Turpin et ses relations avec l'arbitre VAR, où les arbitres VAR n'osent pas contredire ou appeler Turpin s'il prend une mauvaise décision. Je sais pas, j'imagine pas un seul instant que si Turpin se plante complètement sur une action, que l'arbitre VAR qui voit qu'il se plante ne l'appelle pas pour qu'il aille corriger sa décision. À mon avis, c'est impensable.
Et quand t'entends des phrases, alors là on en jambe beaucoup, mais par exemple à Rennes, donc Stéphanie Frappard qui dit c'est haut, mais ça glisse. Reste pas, ça glisse. Toi, ça doit te rendre fou parce que l'arrivée au VAR Center, Je parle sous ton contrôle, mais il me semble que il y a mais même des anciens arbitres aujourd'hui qui sont là.
Il y a des arbitres en activité, notamment le Lyon au PSG, c'était Jérôme Brizard qui était.
Ouais, Jérôme Brizard.
Et à ses côtés, il avait Bruno Coué. Les plus anciens se souviennent, c'est un ancien arbitre international qui a dû.
Plein de fois.
Bon, niçois. Donc, ce sont des anciens arbitres ou des arbitres d'activité qui regardent les matchs. Et qui sont arbitres verts.
Et toi, tu te sens crédible pour le faire, ça? Pourquoi tu vas pas?
Ils me feront jamais appel à moi.
Ah bon?
Non. Non. Bah, ouais, je suis pas candidat.
Bon. Non, t'es pas. Non, mais.
C'est très bien en dehors de ce milieu.
Mais comme quoi, même en faisant appel à des anciens comme toi, Bruno, bah il y a quand même des incohérences.
Ben oui, c'est une vraie question. Des fois, quand je regarde l'image, on regarde tous. On n'a pas besoin d'être arbitre pour voir des fois.
Mais c'est pas l'outil le problème. C'est l'interprétation.
Non, c'est l'utilisation qu'on en fait.
Exactement.
L'interprétation qui en est faite.
Voilà.
Mais l'arbitration, par définition, elle est subjective.
Ben exactement. Et il faut juste accepter la décision de l'arbitre.
Et voilà.
Qu'est-ce que vous pensez tous de ce qui a été mis en place pour la Coupe du Monde du Vin, ces fameux challenges pour les coachs? Pour l'instant, c'est une substitution lorsqu'on ne peut pas avoir de VAR center et d'arbitrage vidéo, c'est-à-dire permettre aux entraîneurs deux fois par match de demander un recours à la vidéo sur une action litigieuse. Est-ce que ça, c'est une bonne piste pour vous, Bruno Derrien, ancien arbitre international?
Pourquoi pas, si ça peut les calmer sur le bord de la touche, que l'arbitre aille voir l'image, les calera, au moins sera ça de gagner.
Eric. Ouais, c'est ça, tu vas gérer la frustration, en fait.
Bah, s'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils sont frustrés, mais qu'ils réclament quelque chose.
Mais là, je donne la parole. Attends, Eric, deux secondes, je donne la parole. Bah, moi, je trouve que c'est peut-être dans le fait de simplifier l'utilisation de la VAR, peut-être que dans ces cas-là, vu qu'il y a tellement d'interprétations aujourd'hui, bah, c'est de se dire que si, en fait, le plus dur à ça, c'est de gérer la frustration des acteurs, la frustration d'un entraîneur, d'un staff, ou même des supporters. Eh ben, écoute, tu fais confiance à ton staff technique. Écoute, s'ils trouvent qu'il y a une injustice, eh ben, ils utilisent la, comme tu peux le faire avec deux situations au tennis par set. Mmh. Ouais, ben là, tu fais un challenge en première mi-temps, un challenge en deuxième mi-temps, et s'il est bon, ton challenge, il est pas annulé.
Voilà.
Et c'est pareil. Et je pense que là, tu peux gérer, en effet, la frustration de tout le monde.
Eric, toi qui es anti-VAR.
Mais parce que je vous l'ai dit au début de mon propos, on ne reviendra pas en arrière. Et tout ce que tu feras en arrière sera mal vécu.
Mais c'est pas en arrière,
parce que
ça.
Du coup, ben oui, puisque du coup, il y a la VAR que quand de toi tu la demandes.
Non, mais ça peut être un complément. Tu peux aussi évoluer.
Les matchs vont durer combien de temps?
Non, mais complément de quoi?
La différence, c'est qu'en plus de la VAR,
tu veux le rajouter.
Mais oui, quel est le problème? Ça prend deux secondes, il va vérifier.
Voilà, on n'a pas fini.
Arrêtez de me faire croire que ça dure un quart d'heure à chaque fois. N'importe quoi.
Bruno, tu as dit 7 minutes
d'arrêt de jeu.
Oui, mais on
a fini les 10 minutes, 12 minutes, des fois dans
chaque match. Au moins, ça sera juste. J'ai personne, tout le monde aurait évacué la frustration.
Benoît, je te rassure, parce que depuis tout à l'heure, tu dis, oh, mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Il y a rien de grave, c'est du football, hein. Il y a rien de grave. C'est juste que si tu donnes un challenge à un coach, eh ben, à un moment donné, il en voudra deux. Et après, il en voudra trois. Pourquoi? S'il en prend un que, en plus, s'avère qu'il se trompe, donc tu vas dire, pourquoi il en a eu un et pourquoi pas deux? Et pourquoi pas trois? Et pourquoi pas, puisque tu utilises
la VAR,
pourquoi ne pas faire confiance à la VAR complètement, du coup? Donc, voilà.
Maintenant, parce que ça
elle a des défauts. Elle a des défauts, la VAR, que je trouve, moi, problématique. Ça convient. Oui, mais je suis un boomer. Ben bien sûr, je suis un boomer, ma foi. Et ça convient à la majorité. Eh ben, on le garde. Je vous l'ai dit, on va la garder. Et donc, vivez le football comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Je vous ai juste dit que moi, je suis content d'avoir joué au football quand il n'y avait pas la VAR. Voilà, c'est tout. Pour les émotions, pour tout ce que ça générait, pour même la légende du foot, la main de Maradona, la main de Vata, le truc. Voilà, c'est les histoires du football qu'on se raconte.
La carotte de Vata, il a adoré, mais je savais pas que tu avais. En plus, il lui a remis en interview l'année dernière.
Eric, c'est...
Exactement. Bravo.
C'est dans le sens de l'histoire. On n'y reviendra pas.
Ça, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. C'est le sens de l'histoire.
Bruno Derrien, merci.
Bruno, t'aurais aimé arbitrer avec la VAR, toi.
Ça m'aurait évité.
Ah, mais oui, c'est une bonne question. Ça, c'est pour ça.
Ben oui.
Notamment.
Bruno, c'est une bonne question. Est-ce que tu aurais aimé arbitrer aujourd'hui par rapport à toi?
Ça m'aurait permis de finir ma carrière dignement. J'avais arbitré un Lyon-Bordeaux, les plus anciens se souviennent, certains avaient dit que c'était un match de handball. Ils avaient joué plus avec les mains qu'avec les pieds, je sais pas. Bon, si j'avais eu la VAR là, je pense que j'aurais pris la bonne décision.
Et ben voilà.
Et puis voilà. Mais bon, c'est bon. Ça.
Merci Bruno Derrien d'être venu dans Rotten Sans Flamme.
J'aurais préféré arbitrer, à mon époque maintenant.
Bon, bonne soirée à vous. Ah oui. Magnifique débat éternel autour de l'arbitrage vidéo à retrouver en podcast sur la chaîne Roten sans flamme dans un instant. Le procès, et on va vous faire revivre le procès de tous ceux qui ont trop d'attentes envers Paul Pogba. A tout de suite sur RMC pour les meilleurs moments de Roten sans flamme.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Roten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC, reprise de l'émission. Lundi prochain, le 5 janvier, Jérôme et toute la bande seront là au rendez-vous dans un quart d'heure. Allô Jérôme, un thème qui nous a fait réagir en cette fin d'année. Les pubs pendant les matchs de la Coupe du Monde, 3 minutes d'interruption par mi-temps. Ça a rendu fou Jean-Michel Larquet, ne loupez pas ce grand moment. Mais tout de suite, le procès de tous ceux qui ont beaucoup trop d'attentes envers Paul Pogba. Écoutez.
RMC, Roten sans flamme.
Eh ben moi, écoute, moi j'ai arrêté à 39 ans, mais c'était un régal d'aller m'entraîner. Ouais,
toi, tu pourrais jamais, toi, tu faisais un métier de feignasse dans les buts. Arrête-toi, Pascal. Wow.
Le procès de Roten sans flamme.
Il a dit ça. Et il a laissé passer ça parce qu'il n'a même pas réagi. Quoi. Voilà,
métier de feignasse, il n'a rien dit.
Non mais... Voilà. Pascal qui fait le fier d'habitude et tout, là il a rien dit, il a pas mouflé.
Qu'ils disent rien, moi ça me choque pas, mais là il s'est fait bouger.
Ah ouais, c'est fou. Alors il faudra encore patienter pour voir Pogba porter le maillot de l'AS Monaco. Le protocole de réathlétisation est très encadré, vous le savez, on vous le raconte depuis le début de la saison dans Roten sans flamme.
Il faisait les lacets dans le vestiaire, Eric il m'envoie.
Arrête de chauffer Pascal. Précisons que Pogba aurait dû faire partie du groupe Molégasque le week-end prochain, mais il s'est blessé à la cuisse droite, ça retarde cette première d'au moins 2 semaines. Pogba a 32 ans, il n'a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2023 et pourtant, certains, dont Jérôme Roten fait partie, rêvent déjà de le voir disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. D'ailleurs, précisons que la question est régulièrement posée à Didier Deschamps. Alors ce soir, on ouvre le procès de tous ceux qui ont trop d'attentes envers Pogba. Le procureur, c'est Monsieur Dugarry, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Deux avocats pour Paul Pogba, Maître Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Pascal Olmeta, bonsoir.
Bonsoir à toutes.
Et un supporter monégasque pour rendre le verdict, c'est Denis qui est avec nous. Salut Denis.
Bonjour Denis du département de Haute-Loire, supporter d'Aix Monaco et du Puy Foot 43. Et un petit coucou à mon Émilie.
Et ben voilà, sois le bienvenu, bonsoir Denis, auditeur fidèle.
Salut Denis.
Merci d'être là. C'est le CV complet, bravo Denis. Dugas, vas-y. Alors, de quoi tu accuses tous ceux qui s'emballent un peu pour Pogba là? Tu te dis calmez-vous. Il est trop loin comme ça du terrain déjà pour s'emballer.
Non mais il me fatigue surtout. Il me fatigue. Laissez Pogba tranquille. Laissez-le revenir à son rythme. Laissez-le revenir comme il le pourra. Voilà. C'est déjà un miracle que l'on puisse revoir ce garçon un jour jouer au foot. Quand j'entends et je lis certains journalistes ou même certains supporters nous expliquer qu'à la Coupe du Monde c'est possible, que ça va le faire, que tout ça. Sincèrement, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Je pense qu'il faut avoir de respect pour le football et le football de haut niveau. Le football de haut niveau, c'est quelque chose de sérieux. L'équipe de France, c'est quelque chose d'encore plus sérieux. Cette équipe de France a avancé depuis pas mal d'années et sans Paul Pogba depuis bon nombre d'années. Bien évidemment que l'histoire serait assez incroyable si on avait la chance de le revoir en équipe de France, mais faut arrêter de jouer cette petite musique qui n'a aujourd'hui absolument aucun but, aucun sens et qui ne sert qu'à écrire du papier ou à faire lire des articles qui ne servent à rien. Donc voilà, moi je trouve ça fatigant, je trouve ça épuisant, c'est mettre une pression en plus totalement inutile sur Paul Pogba qu'en n'a pas besoin. Voilà, je pense qu'il est arrivé à Monaco avec la meilleure des volontés, avec la plus grande des humilités. Donc voilà, il faut le laisser travailler, il faut le laisser s'entraîner. On a tous espoir de le revoir. Ça a été un joueur incroyable, magique, qui aura marqué le football à sa manière dans son rôle de milieu de terrain. Moi, j'ai kiffé vraiment ce joueur du début jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, ça me fatigue d'entendre cette petite musique-là. En plus, j'ai l'impression que c'est manquer un peu de respect au haut niveau. Tu vois, alors je veux bien que les mecs qui sont derrière l'ordinateur, qui ont jamais tapé dans un ballon, peuvent se permettre de juger Pierre-Paul Jacques en estimant que le niveau il est pas bon, le niveau lui il est pas bon, lui il est bon, lui il est ci, lui il est là. Mais le football de haut niveau c'est autre chose. Voilà, c'est des sacrifices du quotidien, c'est dur le haut niveau, c'est s'entraîner, c'est courir, c'est faire face aux blessures, c'est faire face au moral qui est parfois défaillant. Donc le meilleur moyen de respecter Paul Pogba, c'est pas de l'annoncer à la prochaine Coupe du Monde, c'est pas de l'annoncer la prochaine fois en équipe de France, c'est de le laisser travailler, c'est de le laisser s'entraîner avec l'espoir qu'un jour on puisse le revoir sur un terrain de football. Voilà, je pense que les choses doivent s'arrêter là, et tous les autres qui pensent autre chose et qui imaginent autre chose me fatiguent au plus profond de moi.
Jérôme, faut que tu répondes là.
Je suis pas en décalage du tout avec ce que tu dis du gars. Au contraire, moi je pense que j'ai beaucoup de respect, et on le sait, beaucoup de sur ce que t'as dit sur les performances du haut niveau, pourquoi un joueur reste au haut niveau, pourquoi un joueur atteint le niveau international, c'est pas par hasard. Et c'est vrai que dans les critiques, très souvent, quand t'entends certains qui ont jamais mis les pieds sur un terrain de football de haut niveau et qui te disent ben lui il a pas le niveau, lui ceci cela, mais au niveau international, quand t'y arrives pas par hasard, t'y arrives parce que t'as une conscience professionnelle et un talent et surtout une exigence qui est bien au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est la réalité.
T'as jamais été un mauvais joueur quand t'es international.
Mais
déjà,
exactement.
Et encore moins quand t'es international.
Là où t'as raison, c'est même professionnel. T'arrives pas, quand tu vois le jugement de certains sur certains joueurs, tu te dis, mais attends, les gars, vous vous rendez compte,
qu'est-ce qui fait que t'y crois un peu?
Moi, en fait, sur Paul, c'est simple, c'est parce que je trouve que cette exigence, le talent, en effet, il l'a montré. Alors, bien sûr que ça fait 2 ans qu'il a pas joué un match de haut niveau, et tu l'as dit. Donc, 2 ans, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'avais bon espoir au mois d'août. Pourquoi? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu les séances d'entraînement. J'ai vu ce qu'il était capable de faire. Je l'ai vu physiquement, comment il était affûté, ce qu'il mettait en place pour être affûté comme ça et pour faire la répétition qu'il faisait au mois d'août déjà. Je me dis, le mec, c'est pas du jour au lendemain qu'il s'est remis à bosser. Donc c'était déjà un travail depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Il avait anticipé son retour dans un club. Donc ça, j'ai apprécié. Donc j'étais très optimiste sur le fait qu'il revienne un peu plus vite. Déjà dans le groupe, et essayer de faire quelques minutes au niveau professionnel, c'est-à-dire en Ligue 1. Ou en Ligue des Champions. Mais là, on parlait pas du niveau international. Et je me disais qu'en effet, que le jour où il va remettre les pieds sur un terrain de football professionnel avec l'AS Monaco, c'est pas un petit club l'AS Monaco quand même, c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Je me dis que il le fait pas grâce à son nom, mais grâce à ce qu'il montre aux entraînements et grâce à son talent. Donc s'il remet les pieds sur un terrain, que ça soit 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une mi-temps, déjà c'est bon signe pour les prochains mois, parce qu'il va reprendre, si tu veux, le rythme de la haute compétition. La Coupe du Monde, à ce que je sache, c'est
ou
dans
pas, quel... Jérôme. Enfin, un quart d'heure, 20 minutes, t'as enchaîné 2, 3, 4 matchs.
C'est vrai.
Pas.
Mais tu as raison, du gars. Mais moi,
c'est
j'ai, long, hein, j'ai
toujours... parce que l'équipe de France, c'est pas que les performances, c'est aussi l'enchaînement des matchs. Tu peux pas partir à une Coupe du Monde ou tu peux partir à l'équipe de France avec un joueur qui peut péter à tout moment.
Mais tu as raison. Mais moi, je fais pas partie de ceux-là. Et c'est pour ça que, en soi, je me sens pas accusé. Je fais pas partie de ceux qui, moi, je dis juste que c'est un rêve parce que...
Benoît, il m'a dit, on va accuser Jérôme.
Je
dis juste que c'est un rêve parce que moi, mes rêves, ils m'ont fait avancer aussi. Alors des fois, t'en réalises, des fois, t'en réalises pas. Et dans mon analyse du foot, et comme je vois la Coupe du Monde de l'équipe de France aux États-Unis, je me dis que cette équipe, elle me plaît avec certains joueurs, et qu'il y a des joueurs qui me manquent, surtout dans le milieu de terrain. Et en effet, ça ne fait partie que d'un rêve, parce que Paul, quand il était sur le terrain, contrairement à certains de ses détracteurs, parce qu'il y en a qui se sont fait plaisir, même quand il jouait, d'accord, en disant mais il est nonchalant, allez, et ceci, et cela, et cela, j'ai toujours mis en avant ses qualités qui sont stratosphériques. Stratosphériques. Et vu que je le vois comme un joueur stratosphérique, je me dis que quelque chose qui me paraît invraisemblable de penser qu'ils reviennent déjà performants avec l'AS Monaco sur des matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, derrière le voir atteindre le niveau international. Allez. Oui, le temps est compté, surtout avec cette blessure. Mais mon rêve, il est encore là. Voilà.
Pascal, donc, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça alors ?
De croire à ça.
Moi, ce que je veux ajouter, c'est que il y a quelques années en arrière, je vais à Manchester, je vais à l'entraînement, j'amène un enfant de mon association. Sir Alex Ferguson, on mangeait ensemble, il me dit, Pascal, je vais te présenter un gamin, c'est une pépite. Et là, il appelle Paul Pogba, qui avait 17 ans. Le gars, le jeune, est venu, il était très poli, très réservé. Et je l'ai toujours suivi parce qu'il m'a toujours plu en tant qu'homme, en tant que joueur. Quand il a eu ses déboires familiaux et tout ce qui va à côté, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il disparaisse et qu'il laisse un vide à notre football français. ce gars, ce joueur talentueux, qui aujourd'hui, depuis des mois, fait des efforts monstrueux pour revenir. Je n'espère qu'une chose. Après, on verra s'il n'est pas à la Coupe du Monde, eh ben, c'est dommage. Mmh. Mais qu'il revienne, qu'il se fasse plaisir, qu'il revienne, qu'il apporte, parce qu'il est, dans les vestiaires, adorable, il apporte à ces jeunes.
C'est un super mec, ça c'est sûr,
et ça c'est très très important pour notre football.
Tu m'as pas facilité la tâche pour gagner
le verdict de Denis. Denis, qui remporte ce procès alors, les avocats ou le procureur?
Non, pour moi ça serait du gars. C'est du gars,
parce qu'il faut
lui foutre la paix.
Et qu'on n'a pas, tu es supporter de Monaco et tu habites en
Haute-Loire.
Je suis de Bastia, je suis de Monaco, il est tranquille. C'est un club, il n'y a pas de pression, on va le laisser bosser. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il soit prêt, on ne le presse pas, et qu'il arrive, qu'il arrive tranquillement dès le mois de janvier, voire décembre, et après, ça va rouler tout seul, Mais moi, j'y crois.
La prochaine fois que je descends à Monaco, je vais à la boutique, Pascal, Denis, à Saint-Jean de l'Agricole, la commune.
Juste, j'ai pas de conseils à te donner, mais arrêtez les supporters monégasques, ceux qui vivent pas à Monaco, de dire, il n'y a pas de pression à Monaco. Arrêtez de dire ça, parce que c'est la meilleure façon pour que les joueurs s'endorment dès qu'ils perdent un match. Ou tu vois, il y a une pression de résultat à Monaco. Monaco fait partie des grands clubs français. Et quand tu joues à Monaco, que tu sois en Ligue des Champions, en Coupe de France ou dans le Championnat de France, tu te dois de gagner le week-end.
Énorme Christophe Dugarry, énorme Pascal Olmeta et Jérôme Bretagne qui est excellent également sur ce procès dans un instant. Allô Jérôme, un thème polémique, les pubs pendant les matchs de la Coupe du Monde 2026. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC à 19h. Un débat qui avait agité la Dream Team avec Jean-Michel Larquet, Benoît Costil, Jérôme Bretagne. Doit-on arrêter de fantasmer sur ce fameux vivier français, voilà le potentiel de l'équipe de France? Jean-Michel Larquet avait été énorme sur ce sujet, ne loupez pas ça à partir de 19h, mais tout de suite. Allô Jérôme, la Coupe du Monde au programme RMC Radio Officiel, le coup de gueule de Jean-Michel sur les pubs pendant les matchs.
RMC, Rotten sans flamme.
À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens.
Allez,
à gauche,
Emmanuel Petit.
Allez, à gauche.
Petit. Et Gilles.
Allô Jérôme.
Eh oui, Nicolas Pelletier nous rejoint dans ce studio. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Un scandale de plus autour de cette Coupe du Monde 2026. Pour la première fois de l'histoire, la FIFA va mettre en place deux pauses fraîcheur par match, peu importe les conditions, une dans chaque période. Des pauses qui dureront forcément 3 minutes et qui pourront être déclenchées dès la 20e minute de jeu. Une polémique, Nico, parce que ces interruptions programmées et timées vont permettre aux diffuseurs de vendre des spots de pub en plein match.
Oui, pendant tous les matchs du Mondial 2026, à la 22e minute et à la 67e minute de jeu, les joueurs vont réaliser une pause fraîcheur. Mais cette pause ne sera pas d'une simple minute, 3 minutes de pause fraîcheur. Dans sa communication, la FIFA appuie son argumentaire sur la santé des joueurs et sur la chaleur lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais ces pauses fraîcheur ne tiendront pas compte de la météo ni de la présence d'un toit au-dessus du terrain. Elles sont instaurées pour tous les matchs dans un souci d'équité, nous fait savoir la FIFA. L'instauration de ces pauses avec un timing très précis est une très bonne nouvelle pour les diffuseurs. Ils pourront diffuser des spots de publicité en respectant une durée précise. Cette demande émane notamment du diffuseur américain de la Fox qui diffusera la compétition l'été prochain. Les diffuseurs pourront commercialiser à des moments très importants une publicité. Ça va rapporter des milliers d'euros. Autre conséquence de ces pauses de 3 minutes, les matchs de football vont normalement dépasser les 2 heures entre le match de 90 minutes, les 6 minutes de pause fraîcheur, la mi-temps de 15 minutes et le respect strict du temps additionnel. On va donc dépasser les 120 minutes de jeu l'été prochain.
Merci Nico.
Strict du temps additionnel. Oui, c'est ce qu'on a demandé aux arbitres l'été prochain.
Ils vont refaire comme au Qatar.
Exactement.
Donc 10 minutes, 15 minutes.
Exactement. On l'a demandé aux arbitres de respecter le temps additionnel.
On y est. Le foot avec 4 cartons, ça y est. De la pub au milieu des matchs. On est d'accord, c'est un scandale.
Non mais là où c'est horrible par rapport à tout ce que les infos de Nico. Et je pense que Benoît et Jean-Michel, ils ont le mérite.
Jean-Michel, je pense que là,
c'est que ce match-là, en effet, ça va. T'es obligé de te taper donc 2h15, 2h20 à peu près, tout compris, de matchs. Déjà, c'est très long, parce qu'aujourd'hui, on consomme pas le foot. Alors nous, non. Mais la nouvelle génération, ils consomment pas le foot comme nous, déjà, donc ils lâchent plus vite. Et là, d'autant plus, si t'as un match, imagine juste le reflet d'un match compliqué, début de match qui est pas forcément très attractif, ce match-là, il se passe pas grand-chose à la 22e, donc 3 minutes. Mais je peux te dire que
non, mais t'as un spot de pub dans ton match que tu regardes à la télé. Tu
mais si tu bosses pas dessus, tu changes et tu reviens pas.
Oh si, quand même, c'est la Coupe du Monde.
Mais je te dis que c'est ce qui va se passer. Et c'est normal. De toute façon, ils sont en train de tuer notre sport. Et alors que ça vienne des États-Unis, ça me fait rire, parce que le sport US, ils sont habitués à ça. Mais sauf que le soccer, comme ils le disent là-bas, c'est pas le baseball, c'est pas le football américain, c'est pas le basket, et que tu peux pas arriver à faire des coupures comme ça entre les mi-temps ou pendant les mi-temps.
Ben oui. Mais en plus, ça va avoir des répercussions sur le jeu. Hein. T'es dans un temps fort, c'est t'es mené, t'es dans un temps fort à la 67e minute, t'as une pause de 3 minutes, et ça va casser le rythme. Hein.
Mais c'est fou.
Ça va casser le rythme terrible.
Et c'est fou. Et puis pour expliquer aussi aux gens qui n'ont pas forcément pratiqué le football, mais même ceux qui ont pratiqué le football au niveau amateur, t'es pas obligé de l'avoir pratiqué au niveau professionnel ou le rythme. Un match de football, de toute façon, même quand il fait très chaud, ce qui sera pas le cas, comme l'a dit Nico, sur tous les matchs, mais quand il fait très chaud, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin d'avoir une coupure comme ça, de trucs. Déjà, si t'as une coupure, tu coupes pendant 30 secondes, une minute. Tu vois, le temps d'aller boire sur le côté, tac, tac, le coach, il est pas là pour passer ses consignes. Mmh. Hop, tu te replaces et tout ça. Et puis, même quand il n'y a pas de coupure, en général, tu chopes une bouteille d'eau sur le côté, tu chopes la bouteille d'eau des gardiens de but, parce qu'ils en ont toujours une ou deux sur le côté, sur les coups de pied arrêtés. C'est comme ça que ça se passe. Le foot, on l'a vécu comme ça, on a grandi comme ça, on a évolué au niveau professionnel comme ça. Et aujourd'hui, sous prétexte que bah, c'est business, 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 donc ils vont nous couper les matchs. 3 minutes. Moi, je trouve ça
avec
incroyable.
Un autre problème,
ça,
c'est que là,
faire ça.
Désormais, tu crées un précédent, Jean-Michel, et c'est ce qui nous fait peur. C'est est-ce qu'on pourra ensuite revenir en arrière une fois que cette Coupe du Monde sera passée? Non, et ça fait peur.
Revenir en arrière, de faire 2 pas en avant, 3 en arrière, ou le contraire, ça gêne vraiment
les matchs de foot.
Infantino. Ça, il s'en fout complètement.
Oh, oui.
Mais plus c'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Dire que là, dans les explications, j'ai entendu que c'est à la demande d'une chaîne américaine.
Oui, ouais, Fox. La Fox, la plus gros diffuseur de la Coupe du Monde.
Mais ils nous prendraient pas pour des idiots, pour pas dire autre chose, parce que le règlement, les lois du jeu. Mais je comprends que les lois du jeu, ils s'en foutent autant que de son règlement, puisque son règlement, il le prend, il le chiffonne, il le foule à ses pieds, et puis les dates FIFA, même si c'est une compétition FIFA, mais ce ne sont pas vraiment des dates FIFA, et puis la dernière, c'était quoi là qu'on a fait? On a fait un débat.
Bah c'est ça, la Coupe d'Afrique, on respectait pas les dates de libération des joueurs.
La Coupe d'Afrique et le championnat du monde U20, voilà, c'est j'y suis, et puis... Mais la télévision, la société, le diffuseur, la FIFA, elle lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Alors, sur les 3 minutes, vous estimez à combien le spot de 30 secondes? Bon, soyez généreux, vous nous enfilerez un petit peu quand même. Hein,
bien sûr.
On va s'arranger. Donc, tout ça, c'est un écran de fumée et c'est la FIFA qui fait ça. Et puis, quand on rajoute le respect strict des arrêts de jeu, ça veut dire que les autres ne respectent pas les temps additionnels strictement. Enfin, j'en sais rien. C'est honteux. Ôtez-moi d'un doute. On entend parler, à juste titre, de l'environnement, de l'écologie, de l'augmentation des températures. Entre l'époque où je jouais, et actuellement, la température a augmenté de 10 degrés, de 15 degrés, de combien elle a augmenté?
Ah bah
de 3 ou 4 degrés quand même.
Non, pas, non. Elle a pas augmenté sur, elle a pas augmenté de 3 4 degrés. C'est, tu dis des bêtises.
Bah de combien alors?
Bah vas-y, dis-nous.
1 et demi.
Attends, 1 et demi. C'est vraiment un bouillon de culture,
donc,
hein, ce que tu nous
donc
fais.
Donc 1 et demi, c'est formidable. Ça a augmenté de 1 et demi, donc maintenant on va faire 2 postes fraîcheurs.
Et toi, t'as connu les glaciers, ça doit faire bizarre quand même.
Non. Moi, il y avait des dinosaures quand je jouais. mais ils nous prennent pour des cons. Ah, c'est pas possible.
Ah, mais ça, on le sait, Jean-Michel. Hein.
Mais j'en ai marre. Écoute,
mais comme tu dis, plus c'est gros, plus ça passe. Mais
je n'ai mis un marre de ces dirigeants.
Comment tes amis qui sont sélectionneurs, comme Didier Deschamps, par exemple, eux,
ils sont rien. Qu'est-ce que tu veux?
Mais
c'est la FIFA qui décide.
Mais le président Diallo, alors, on va dire que le sélectionneur.
Le président de la FIFA, il fait ce qu'il veut.
Mais il a le droit de se braquer, il a le droit de faire une interview, de dire non, mais attendez, vous rendez compte.
Mais qu'est-ce que ça va changer?
Tu sais que... Au moins qu'on perde pas la gueule, qu'on aille dans le sens et d'essayer de combattre un petit peu ce football business. Mais alors je veux bien que t'as besoin de rentrer, que ceci cela, mais là ils sont en train
de rentrer quand tu es dirigeant et que en Afrique du Sud tu fais 80 millions de dollars de bénéfices et que c'est partagé en trois entre des dirigeants et des secrétaires généraux.
Ouais.
Mais t'as besoin
à côté de ça, faut pas faire non plus les vierges effarouchées. Nous, on est un média aussi. Et ben, nous, on profitera de ce moment pour passer de la pub aussi. Et M6, qui est diffuseur de la Coupe du Monde, va profiter de ce moment pour faire de la pub.
Mais alors,
nous, ce qu'on regrette juste, c'est que quand tu regardes ta retransmission,
mais découpe le match,
quand
tu fais
regardes,
10 minutes, 10 minutes, 10 minutes.
Ça sera coupé, ça c'est terrible. Mais non, mais on est d'accord.
Pose pas la question aux acteurs.
Mais au moins, c'est pour ça. Mais
poser la question aux acteurs.
Mais poser.
C'est que du business.
Mais tu vas voir ce qu'ils pensent tous les joueurs. Parce que là, moi, je parle pour eux.
Mais les joueurs, ils sont prisonniers.
Je suis contre. Mais ils n'ont pas leur mot à dire.
Bien sûr.
C'est très clair.
Mais t'as le droit de le dénoncer quand même.
Je pense qu'il y en a qui vont le dire.
J'aimerais qu'il n'y ait pas d'interruption, que le ballon ne sorte jamais, qu'il n'y ait pas un coup franc entre la 20e et la 30e.
Ben, il sifflerait.
Ce qui est terrible, c'est pour la finale de la Coupe du Monde, il y aura 2 pauses fraîcheurs de 3 minutes. Tu auras aussi une mi-temps rallongée pour avoir un show à la mi-temps comme Super Bowl.
Déjà, le show rallongé, on l'avait vu dans la finale de la Ligue des Champions.
Ah ben, le show rallongé, vous l'avez vu au tirage au sort quand même, le show rallongé.
À la fin de l'échauffement et l'entrée des équipes.
Il n'était pas rallongé, il était interminable le show.
Pour le tirage
au sort.
Et on rappelle d'ailleurs. Il est sur 3 jours le tirage.
Merci à Nicolas Petit.
Mais vu le sourire de Nico, à mon avis. Sur 3 jours, il s'est régalé.
Et on rappelle à tout le monde que c'est Pascal Olmeta qui fera l'Indien des Village People pour la cérémonie de clôture et la finale de la Coupe du Monde.
Cherche des plumes.
Et la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme dans un instant à partir de 19h. Doit-on arrêter de fantasmer sur le fameux vivier français? Et puis la VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que vous êtes toujours fasciné par Cristiano Ronaldo? À tout de suite, on est là jusqu'à 20h.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.